Chapitre 43. Des nouvelles de Glasgow. Les lettres à Lady Lundy et à Mr. Crum ayant été expédiées le lundi, on pouvait attendre les réponses par retour du courrier, c'est-à-dire dans l'après-midi du mercredi à l'Ermitage. Sir Patrick et Arnold, durant cet intervalle, tinrent plusieurs conseils privés sur la question délicate et difficile d'admettre ou de ne pas admettre Blanche à la connaissance de ce qui était arrivé. Le plus prudent et le plus âgé des deux émit son avis et le plus jeune et le moins expérimenté écouta. « Pensez à cela, dit Sir Patrick, et faites-le. » Arnold y pensa et ne le fit pas. Que ceux qui seraient disposés à le blâmer se rappellent qu'il n'était marié que depuis une quinzaine de jours. Il est dur, assurément, après 2 semaines seulement de possession, de paraître devant sa femme en coupable, assis sur la sellette, de lui demander grâce et de trouver qu'un ange de justice vous a été accordé par la destinée libérale dans celle que vous adorez. Ils étaient tous trois à la maison dans l'après-midi du mercredi, regardant au dehors pour guetter l'arrivée du facteur. La correspondance arriva. Elle contenait, exactement comme l'avait prévu Sir Patrick, une lettre de Lady Lundy. Mais ce n'était pas le sujet le plus intéressant. Aucune nouvelle de Glasgow. L'homme de loi n'avait pas répondu à Sir Patrick par le retour du courrier. « Est-ce mauvais signe ?» demanda Blanche. « C'est signe, au contraire, qu'il est arrivé quelque chose, » répondit son oncle. « Mr. Crum attend peut-être d'avoir reçu quelque information spéciale et veut se donner l'honneur de nous la communiquer. » « Nous devons espérer, ma chère, dans la poste de demain. »«
Ouvrez toujours la lettre de Lady Lundy, » dit Blanche. « Êtes-vous sûre qu'elle soit pour vous et non pour moi ?»
Il n'y avait pas de doute à avoir. La réponse de sa seigneurie était évidemment adressée à son beau-frère.
« Je sais ce que cela signifie, » dit Blanche, en regardant attentivement son oncle pendant qu'il lisait sa lettre. « Prononcer le nom d'Anne, c'est insulter ma belle-mère. » J'ai pris la liberté de le prononcer. Lady Lundy est mortellement offensée et furieuse.
Téméraire jugement de la jeunesse. Une femme qui prend une attitude digne, dans un événement de famille, n'est pas mortellement offensée, elle est profondément affligée. Lady avait pris une attitude digne.
Je sais bien, écrivait cette estimable et chrétienne dame, que j'ai été depuis longtemps considérée comme une intruse par les membres de la famille de mon défunt et bien-aimé mari. Mais je n'étais guère préparée à me voir entièrement exclue de toute confiance dans un moment où quelque catastrophe domestique nous menace. Je n'ai nul désir, chère sœur Patrick, d'intervenir d'une manière indiscrète. Sentant néanmoins que ce serait manquer à l'honneur de ma position de correspondre désormais avec Blanche, je m'adresse au chef de la famille dans le plus pur intérêt des convenances. Permettez-moi de demander si, dans des circonstances qui paraissent assez sérieuses pour nécessiter le rappel de ma belle-fille et de son mari de leur voyage de noces, vous pensez qu'il soit décent de laisser la veuve du feu Sir Thomas dans l'ignorance la plus complète de ce qui a pu arriver. Réfléchissez à cela, non par rapport à moi, mais par rapport à votre position dans la société. La curiosité, vous le savez, est étrangère à ma nature, mais quand cet effroyable scandale, quel qu'il puisse être, éclatera, ce qui, chère sœur Patrick, ne peut manquer d'arriver, que pensera le monde s'il demande l'opinion de Lady Lundy et s'il apprend que Lady Lundy ne sait absolument rien ? Quoi que vous décidiez, je n'y verrai pas d'offense. Je serai peut-être blessée, mais peu importe. Dans le petit cercle de mes devoirs, je serai toujours prête et résignée. Si même vous m'excluez complètement de toute délibération de la famille, mes meilleurs souhaits trouveront encore le chemin de l'Ermitage. Puis-je ajouter, sans m'exposer à vos railleries, que les prières d'une femme isolée sur la terre sont offertes pour le bonheur de tous ? « Eh bien, » dit Blanche.
Sir Patrick plia la lettre et la mit dans sa poche. « Recevez les meilleurs souhaits de votre belle-mère, ma chère enfant. » Après avoir répondu en ces termes, il salua sa nièce avec beaucoup de bonne grâce et sortit de la serre. « Si je pense qu'il est décent, se disait-il à lui-même quand il eut fermé la porte, de laisser la veuve du feu Sir Thomas Lundy dans l'ignorance la plus complète de tout cela, quand le caractère d'une telle dame est en ébullition,
Je pense qu'il est plus que décent, je pense qu'il est absolument désirable de la laisser avoir le dernier mot. » Il se rendit à la bibliothèque et enferma la lettre de remontrance de sa belle-sœur dans son carton portant cette inscription « Lettre sans réponse ». Après s'en être débarrassé de cette manière, il fredonna son petit air écossais favori, mit son chapeau et alla faire un tour au soleil dans le jardin. Blanche n'était pas complètement satisfaite par la réponse de Sir Patrick. Elle en appela son mari. « Y a-t-il quelque chose de mauvais, dit-elle, que Sir Patrick voudrait me cacher ?» Arnold ne pouvait pas trouver de meilleure occasion que celle-ci pour faire la révélation si longtemps différée. Il leva les yeux sur le visage de Blanche. Par une malheureuse fatalité, elle avait une mine charmante ce matin-là. Quelle mine ferait-elle s'il lui racontait l'histoire de sa présence à l'auberge? Arnold était amoureux d'elle, Arnold ne dit rien. La distribution de la poste du lendemain apporta non seulement la lettre attendue de Mr. Croom, mais aussi un numéro du journal de Glasgow qu'on n'attendait pas. Cette fois, Blanche n'eut pas lieu de se plaindre que son oncle gardât sa correspondance pour lui. Sir Patrick lut la lettre de l'homme de loi avec un intérêt et une agitation qui indiquaient que son contenu le surprenait grandement. Il la tendit à Arnold et à sa nièce. « Mauvaise nouvelle, dit-il, nous devons tous en prendre notre part. » Après avoir accusé réception de la lettre de Sir Patrick, Mr. Croom commençait par faire connaître tout ce qu'il savait sur les mouvements de Miss Sylvestre à partir de l'époque où elle avait quitté l'hôtel de la Tête de Mouton. 15 jours après environ, il avait reçu une lettre d'elle l'informant qu'elle avait trouvé un lieu de résidence à son gré dans un village près de Glasgow. Porté d'un vif intérêt pour Miss Sylvestre, il était allé lui rendre visite. Il s'était assuré qu'elle habitait chez des gens convenables et qu'elle était là aussi bien que les circonstances le permettaient. Pendant toute une semaine, il n'avait eu aucune nouvelle. À l'expiration de ce temps, il avait reçu une lettre l'informant que Miss Sylvestre avait lu, dans le journal de Glasgow du jour où elle écrivait, quelque chose qui avait un intérêt sérieux pour elle et qui l'obligeait à faire immédiatement un voyage dans le Nord et de le poursuivre aussi vite que ses forces lui permettraient. Plus tard, quand elle serait fixée sur ses démarches ultérieures, elle écrirait à Mr. Croom pour l'informer de l'endroit où il pourrait communiquer avec elle si cela devenait nécessaire. En attendant, elle ne pouvait que le remercier de sa bonté et le prier de recevoir toutes les lettres ou les messages qui pourraient arriver à son adresse. Depuis la réception de ce billet, l'homme de loi ne savait plus rien. Il avait attendu, dans l'espoir de recevoir quelque chose de nouveau, qu'il pourrait transmettre à Sir Patrick. L'espoir ne s'était pas réalisé. Il avait maintenant fait connaître tout ce qu'il savait, et il envoyait un numéro du journal auquel Miss Sylvestre faisait allusion pour le cas où l'examen qui en serait fait par Sir Patrick pourrait le conduire à d'autres découvertes. En terminant, il s'engageait à écrire dès qu'il aurait reçu d'autres renseignements. Blanche s'empara du journal et le déplia. « Laissez-moi voir, dit-elle, je saurai trouver ce qu'Anne y a vu mieux que personne. » Elle le parcourut des yeux, colonne par colonne et page par page, et laissa tomber le journal sur ses genoux avec un geste de désespoir. « Rien, s'écria-t-elle, je ne vois rien nulle part qui puisse intéresser Anne. Rien qui puisse intéresser personne, excepté Lady Lundy, continua-t-elle en jetant à terre le journal qu'elle avait sur ses genoux. La nouvelle qui s'est répandue au cygne paraît se confirmer, Arnold. Geoffrey Delamain est sur le point d'épouser Mistress Glenarm. Comment ? S'écria Arnold, frappé tout à coup de l'idée que c'était la nouvelle qu'Anne avait lue. Sir Patrick l'avertit du regard et ramassa le journal. Je ferai bien de le parcourir à mon tour, Blanche, et de m'assurer que rien ne vous a échappé, dit-il. L'annonce de laquelle Blanche avait dit ces deux mots était au nombre des nouvelles classées sous ce titre. Nouvelles du monde élégant. Une alliance matrimoniale, disait le journal de Glasgow, est projetée entre l'honorable Geoffrey Delamain et la belle et charmante veuve de feu Mathieu Glenarm, Esquire, antérieurement Miss New Eden. Le mariage, selon toutes les probabilités, sera célébré en Écosse avant la fin de cet automne et le déjeuner de noces, dit-on, réunira une nombreuse et brillante société au cygne. Sir Patrick passa en silence le journal à Arnold. Il était clair, pour quiconque avait connaissance de l'histoire d'Anne Sylvestre, que c'était cet article qui était fatalement parvenu jusqu'à elle dans sa paisible retraite. L'explication de ce qui s'était ensuivi n'était guère moins claire. Mais ce qui était encore plus facile à comprendre, selon Sir Patrick, c'était le but du voyage d'Anne dans le Nord. La femme abandonnée avait rappelé ce qui lui restait d'énergie et s'était dévouée à un effort désespéré pour empêcher le mariage de Mrs. Glenarm. Blanche fut la première à rompre le silence.
« C'est comme une fatalité, » dit-elle. « De perpétuels insuccès, des désappointements sans fin, Anne et moi sommes-nous condamnés à ne jamais nous revoir ?»
Elle regarda son oncle. Sir Patrick ne montrait pas son énergie ordinaire en face de ce désastre. « Elle a promis d'écrire à Mr. Croom, » dit-il. « Mr. Croom a promis de nous transmettre les nouvelles qu'il recevrait d'elle. C'est la seule chance qui nous reste. Il nous faut l'accepter avec autant de résignation que possible. » Blanche s'en alla errer avec une insouciance apparente parmi les fleurs de la serre. Sir Patrick ne fit pas mystère de l'impression produite sur lui par la lettre de Mr. Croom quand il se trouva seul avec Arnold. « Il n'y a pas à nier, dit-il, que les choses aient pris un tour très sérieux. Mes plans et mes calculs sont renversés. Je ne peux prévoir quel nouveau malheur nous menace si ces deux femmes se rencontrent. Quel acte désespéré peut commettre Delemaine si sa famille le met au pied du mur? Dans l'état des choses, j'avoue franchement que je ne sais plus que faire. Une grande lumière de l'église presbytérienne, ajouta-t-il avec un éclair passager de son humeur sarcastique, déclarait une fois, en ma présence, que l'invention de l'imprimerie n'était rien de moins que la preuve de l'activité intellectuelle des démons. Sur mon honneur, pour la première fois de ma vie, je me sentirai disposé à en tomber d'accord avec lui. » Il reprit machinalement le journal qu'Arnold avait posé sur la table. « Qu'est-ce que cela ? » s'écria-t-il à la vue d'un nom qui lui sauta aux yeux dès la première ligne du journal. « Encore Mrs. Glenarm ? Veulent-ils faire de la veuve du marchand de fer un personnage public ?» C'était bien le nom de la veuve qui figurait pour la seconde fois dans les colonnes du journal, au milieu d'une sorte de chronique fournie par un correspondant occasionnel et insérée sous ce titre « Ce qu'on dit et ce qu'on fait dans le Nord ». Après d'agréables bavardages sur les chasses projetées pour la saison, sur les modes de Paris, sur un accident arrivé à un touriste et sur un scandale dans l'église d'Écosse, l'auteur procédait au récit d'un cas intéressant relatif à un mariage dans la sphère connue dans le langage des valets de pied comme étant la sphère du high life. Un grand bruit, continuait le correspondant, a été causé dans le comté de Perth et ses environs par la révélation d'une tentative anonyme de chantage dont une dame de distinction a été l'objet. Un nom a été déjà mentionné publiquement dans une note adressée au magistrat. Il ne peut donc y avoir indiscrétion à faire savoir que ce nom est celui de Mrs. Glenarm, dont le prochain mariage avec l'honorable Geoffrey Delemaine a été annoncé dans une autre partie du journal. Mrs. Glenarm avait, à ce qu'il paraît, reçu une lettre anonyme le premier jour de son arrivée dans la demeure d'une amie qui réside dans le comté de Perth. Cette lettre l'avertissait qu'il existait un obstacle dont elle n'avait probablement pas connaissance à son mariage projeté. Le gentleman qu'elle devait épouser était sérieusement compromis avec une autre dame et cette dame s'opposerait au mariage avec des preuves écrites à l'appui de ses droits. La preuve consisterait en deux lettres échangées entre les parties et signées de leur nom et cette correspondance serait tenue à la disposition de Mrs. Glenarm aux deux conditions qui suivent. La première, qu'elle offrirait un prix suffisamment libéral à celui qui était présentement possesseur des deux lettres. La seconde, qu'elle consentirait à adopter un moyen d'effectuer le versement de l'argent qui garantirait la personne en question de tout danger de tomber sous la teinte de la loi. La réponse à ces deux propositions devait être faite par l'intermédiaire d'un avis inséré dans le journal local avec cette adresse
à un ami dans l'ombre. Certains tours de phrase et deux ou trois fautes d'orthographe désignaient cette insolente lettre comme, selon toutes les probabilités, l'œuvre d'un Écossais appartenant aux rangs les plus infimes de la société. Mistress Glenarm montra immédiatement cette épître à son plus proche parent, le capitaine Newenden. Le capitaine consulta un homme de loi dans le Perth. Il fut décidé, après mûre réflexion, que la vie demandée serait insérée et qu'on prendrait les mesures nécessaires pour s'emparer de l'auteur de la lettre quand il se révélerait, sans permettre à cet homme de profiter de l'acte d'escroquerie tenté par lui. La finesse de l'ami dans l'ombre, quel qu'il puisse être, l'expérience l'a prouvé, est égale au moins à celle des hommes de loi. Non seulement il a échappé au piège qui lui a été d'abord tendu, mais à d'autres qu'on lui a préparés. Une deuxième et une troisième lettre anonymes, plus impudentes l'une que l'autre, ont été reçues par Mistress Glenarm, déclarant à cette dame et aux amis qui agissaient pour elle qu'il ne faisait que perdre du temps et élever le prix qui serait demandé pour la remise de la correspondance par leur façon d'agir. Le capitaine Newenden, ne sachant quel autre parti prendre, a fait appel au magistrat de la ville et une récompense a été offerte sous la sanction des autorités municipales à qui découvrirait l'homme. Ce moyen étant resté également sans résultat, le capitaine a pris ses dispositions, d'accord avec ses conseils, pour placer l'affaire entre les mains d'un agent expérimenté de la police de Londres. Tel est l'état des choses, autant que le correspondant peut le savoir dans le moment présent. Il est seulement nécessaire d'ajouter que Mistress Glenarm quitte le voisinage de Perth afin d'échapper à de nouveaux ennuis et s'est placée sous la protection de quelques amis dans une autre partie de la contrée. Mr. Geoffrey Delamayne, dont la bonne renommée a été attaquée sans le moindre fondement, a exprimé non seulement son indignation, bien naturelle en pareille circonstance, mais aussi son excessif regret de n'être pas en position d'aider le capitaine Newenden à livrer le calomniateur à la justice. Cet honorable gentleman, comme cela est parfaitement connu du monde du sport, est en cours d'entraînement pour sa prochaine participation à la course à pied de Fulham. Il était si important que son esprit ne fût pas tourmenté par ses ennuis dans la position où il se trouvait, que son entraîneur et les principaux parieurs qui le soutenaient ont jugé désirable de hâter son transport dans le voisinage de Fulham, où les exercices qui doivent le préparer pour la course seront continués sur le lieu même. Le mystère semble s'épaissir, dit Arnold. Tout au contraire, répliqua vivement Sir Patrick. Le mystère s'éclaircit rapidement grâce au journal de Glasgow. Je n'aurai pas la peine de traiter avec Bishopprince pour les lettres volées. Miss Sylvestre est dans le comté de Perth pour reconquérir sa correspondance avec Geoffrey Delamayne. Vous pensez qu'elle aura reconnu qu'il s'agissait de cette correspondance ? Dit Arnold. Certainement, mais selon moi, elle ne peut manquer d'avoir été plus loin encore. Ou je me trompe bien, ou les précautions prises par l'auteur anonyme ne l'ont pas trompé sur l'identité du personnage. Comment a-t-elle pu deviner cela ? Voici de quelle façon je pense. Quoi qu'elle ait pu supposer antérieurement, elle doit soupçonner maintenant que la correspondance absente a été volée et non perdue. Il n'y a que deux personnes qu'elle peut considérer comme probablement coupables du vol, Miss Regine Vere et Bishopprince. La mention faite du style des lettres anonymes montre que c'est le style d'un Écossais de la plus basse classe. C'est désigné Maître Bishopprince. Vous comprenez ? Très bien. Maintenant, supposez qu'elle recouvre la possession de ce qui lui a été volé. Qu'est-ce qui arrivera alors ? Elle ne sera pas une femme si, munie de ses preuves écrites, elle ne se rend pas aussitôt près de Mistress Glenarm. Innocemment, elle peut servir ou renverser nos plans. Dans l'un et l'autre cas, la marche que nous avons à suivre est encore facile à tracer. Notre intérêt à nous mettre en communication avec Miss Sylvestre reste ce qu'il était avant que nous eussions reçu le journal de Glasgow. Je propose d'attendre jusqu'à dimanche la chance d'une nouvelle lettre de Mr. Croom. Si nous n'avons pas entendu parler de lui, je partirai pour l'Écosse lundi matin et j'essaierai de retrouver Miss Sylvestre par l'intermédiaire de Mistress Glenarm. Vous me laisserez ici ? Je vous laisserai ici. Quelqu'un doit rester avec Blanche. Elle n'est mariée que depuis 15 jours. Ai-je besoin de vous le rappeler ?
Pensez-vous que Mr. Crewe m'écrira avant lundi ?
Ce serait une circonstance si heureuse pour nous qu'il écrivît que je n'ose l'espérer.
Vous comptez notre chance à la baisse, Sir Patrick.
Je déteste l'argot, Arnold, mais l'argot exprime bien, cette fois, l'état de mon esprit.
La chance de chacun tourne tôt ou tard, reprit Arnold. Je ne puis m'empêcher de penser que la nôtre est au moment de tourner.
Consentiriez-vous à faire un pari, Sir Patrick ?
Adressez-vous aux écuries. Je laisse les paris à mon groom comme je lui laisse le soin d'étrier mes chevaux.
Sur cette réponse un peu verte, le baronnet mit fin à l'entretien.
Les heures s'écoulèrent, le temps ramena l'heure de la poste et la poste décida en faveur d'Arnold.
Le manque de confiance de Sir Patrick dans le favorable patronage de la fortune fut démenti par l'arrivée, le lendemain, d'une seconde lettre de l'homme de loi de Glasgow.
« J'ai le plaisir de vous annoncer, écrivait Mr. Crewe, que j'ai reçu des nouvelles de Miss Sylvestre par la distribution qui suivit l'envoi de ma lettre à l'Ermitage. Elle m'écrit très brièvement pour m'annoncer qu'elle a demandé de fixer sa résidence à Londres. La raison donnée au parti qu'elle prend est qu'elle n'avait certainement pas prévu la dernière fois que je la vis et qu'elle voit approcher l'épuisement de ses ressources pécuniaires. Ayant déjà décidé, comme moyen de gagner sa vie, d'adopter la profession de chanteuse de concert, elle s'était arrangée pour remettre ses intérêts entre les mains d'un ancien ami de sa mère, qui paraît aussi avoir exercé la profession musicale. Cet ami dirige une agence dramatique et musicale, depuis un temps établie dans la métropole. Il est bien connu d'elle comme un homme dans lequel on peut avoir confiance et qui, de tout point, est respectable. Elle m'envoie le nom et l'adresse de cette personne que vous trouverez incluse dans ma lettre, copiée sur un chiffon de papier, pour le cas où j'aurais à lui écrire avant qu'elle ne fût définitivement établie à Londres. Telle est la substance de sa lettre. Je dois seulement ajouter qu'elle ne fait pas la plus légère allusion à l'affaire qu'il a décidé à quitter le voisinage de Glasgow.
Sir Patrick se trouvait seul quand il ouvrit la lettre de Mr. Crewe. Son premier soin, après l'avoir lu, fut de consulter l'indicateur des chemins de fer suspendu dans l'antichambre. Cela fait, il retourna à la bibliothèque, écrivit un court billet à l'agent musical et sonna.
Miss Sylvestre est attendue à Londres, Duncan. J'ai besoin d'une personne discrète pour communiquer avec elle. Vous êtes cette personne.
Duncan s'inclina. Sir Patrick lui remit le billet.
Si vous partez à l'instant, vous arriverez à temps pour le train. Rendez-vous à cette adresse et informez-vous de Miss Sylvestre. Si elle est arrivée, portez-lui nos compliments et dites-lui que j'aurai l'honneur de me présenter chez elle dans l'intérêt de Mr. Brigworth à l'époque la plus rapprochée qui lui conviendra. Faites diligence, vous pourrez être prêt à repartir par le dernier train.
Mr. et Mrs. Brigworth sont-ils de retour de leur promenade en voiture ?
Non, Sir Patrick.
En attendant le retour d'Arnold et de Blanche, Sir Patrick relut la lettre de Mr. Crewe une seconde fois.
Il n'était pas parfaitement certain que la raison pécuniaire fût la véritable cause du voyage d'Anne vers le sud.
Se rappelant que l'entraîneur de Geoffrey de Lemain l'avait conduit dans le voisinage de Londres, il était enclin à soupçonner qu'une querelle sérieuse pouvait être survenue entre Anne et Mrs. Glenarm et qu'elle pourrait bien avoir comme résultat un appel direct à Geoffrey de Lemain lui-même.
Dans ce cas, les conseils et l'assistance de Sir Patrick devaient être mis sans scrupule à la disposition de Miss Sylvestre. En opposant ses droits à ceux de Mrs. Glenarm, Anne affirmait sa qualité de femme non mariée et servait ainsi les intérêts de Blanche aussi bien que les siens.
« Je dois à Blanche de lui venir en aide, » pensa Sir Patrick, « et je dois à moi-même d'amener Geoffrey de Lemain à se voir obligé de compter avec ses engagements. »
Les aboiements des chiens dans la cour annoncèrent le retour de la voiture. Sir Patrick alla à la rencontre d'Arnold et de Blanche jusqu'à la grille et les mit au courant des nouvelles. Au moment précis auquel il était attendu, le discret Duncan revint avec un billet de l'agent musical.
Miss Sylvestre n'était pas encore arrivée à Londres, mais on l'attendait pour le mardi de la semaine suivante au plus tard. L'agent était désormais muni d'instructions qui lui faisaient un devoir de se conformer avec la plus scrupuleuse attention aux ordres de Sir Patrick Lundy. Il avait promis d'avoir soin que le message de Sir Patrick fût transmis à Miss Sylvestre aussitôt son arrivée. Enfin, on avait des nouvelles sur lesquelles on pouvait compter. Enfin, on avait l'espérance de la voir. Blanche était radieuse. Arnold était en belle humeur pour la première fois depuis son retour de Bade. Sir Patrick fit tout ce qu'il put pour se laisser gagner par la gaieté de ses jeunes amis. Mais à sa grande surprise aussi bien qu'à la leur, ses efforts restèrent inutiles. Le cours des événements se tournait évidemment en sa faveur. Il était délivré de la perspective d'un voyage en Écosse dont le résultat eût été douteux, assuré d'avoir une entrevue avec Anne dans quelques jours. Néanmoins, il resta en proie aux humeurs noires toute la soirée. « Encore à la baisse sur nos chances, lui dit Arnold, au moment où ils allaient se séparer pour la nuit, après leur dernière partie de billard. Nous ne pouvions désirer rien de plus encourageant que la perspective que nous promet la semaine prochaine. » Sir Patrick posa sa main sur l'épaule d'Arnold. « Soyons indulgents l'un et l'autre, dit-il avec sa gravité humoristique, pour l'humiliant spectacle de la folie d'un vieillard. Je sens en ce moment, Arnold, que je donnerai tout ce que je possède au monde pour que la semaine prochaine fût passée. » « Mais pourquoi ? » ?»« C'est là qu'est la folie. Je ne saurais dire pourquoi, avec les meilleures raisons, pour être dans des dispositions d'esprit plus satisfaisantes que jamais. Je me sens envahi par une invincible et inexplicable tristesse. Que conclure de cela ? Est-ce quelque avertissement surnaturel de quelque malheur à venir ? Suis-je sous l'influence d'un dérangement momentané des fonctions du foie ? Telle est la question. Qui la décidera ? Que l'humanité est méprisable, Arnold, quand on la connaît bien. Donnez-moi la bougie et souhaitons que ce soit le foie.